Radio Météo. Dométéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Édouard.
Bonjour frère Louis.
Nous arrivons au numéro 782 du catéchisme de l'Église catholique et qui parle des caractéristiques du peuple de Dieu. Il semble que le peuple de Dieu, l'Église, ait plusieurs caractéristiques qui nous permettent de le distinguer des autres groupements religieux, et peut-être particulièrement de l'islam, du judaïsme, mais aussi de groupements politiques ou culturels. Est-ce que tu pourrais nous redire les différentes caractéristiques du peuple de Dieu ?
Alors, le peuple de Dieu, tel que nous l'avons reçu, depuis que Jésus l'a institué par son sang. Donc ce n'est pas seulement le peuple de la première alliance qui est une préfiguration de ce peuple nouveau. Il y avait déjà eu l'agneau du sacrifice avec Moïse, mais c'était un animal. Là, il s'agit d'une personne qui s'est offerte pour la rémission des péchés. Et du coup, le sang par lequel il s'est acquis, ce nouveau peuple de Dieu, a les caractéristiques de Jésus. Quelles étaient les caractéristiques de Jésus ? C'était d'être roi, prêtre et prophète. Et l'Église que Jésus institue par son sang a les mêmes caractéristiques. C'est ça qu'il faut comprendre en premier, que Jésus lui-même. C'est-à-dire que l'Église ressemble au Christ qui est doté de ces trois charges qui sont les siennes et qui lui a attribué comme un don, c'est-à-dire sa royauté, son sacerdoce et sa capacité prophétique. Car l'Église, rappelons-le, nous l'avons déjà dit dans une émission ancienne, l'Église, c'est Jésus-Christ répandu et communiqué, selon l'expression de Bossuet. Et donc Jésus ne pouvait pas donner moins à l'Église que ce que lui-même il a reçu de son Père dans cette mission de sauver les hommes comme médiateur, évidemment. Mutatis mutandis, lui il est Dieu, l'Église n'est qu'une réalité créée. Donc évidemment, il y a une grosse différence, mais il y a participation au Christ, comme dit l'Épître aux Hébreux, participation à l'Esprit, et nous participons donc des munera, c'est-à-dire des charges du Christ. En particulier, nous avons la première munera qui peut être attribuée au Père, c'est celle de la royauté, car tout remonte au Père, finalement. Nous nous souvenons que Jésus, par exemple, quand on dit qu'un homme est un roi, il distribue les choses, je dirais, à la fois au niveau temporel, il exerce un pouvoir, il exerce une législation, il exerce un jugement. Eh bien, ce jugement extraordinaire, Jésus le remet finalement à son Père. On le voit par exemple dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, dans lequel il est dit explicitement que tout sera remis au Père éternel. Lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a tout soumis, et c'est évidemment le Père quand cette expression est dite, afin que Dieu soit tout en tous. Donc la première figure, c'est la royauté, et la royauté, il faut la donner au Christ, mais d'une manière encore plus, je dirais, transcendante, c'est le Père qui est le roi par excellence. Vous avez le sacerdoce qui est la forme même par laquelle Jésus a été médiateur, et cette expression de sacerdoce est très importante dans l'Épître aux Hébreux, où Jésus est révélé comme étant le grand prêtre par excellence de la Nouvelle Alliance. Et enfin, la prophétie que l'on peut tout à fait considérer comme attribuable au Saint-Esprit, puisque l'Esprit des prophètes s'exprime tout du long de la Bible. Et on comprend donc que royauté, sacerdoce et prophétie qui, bien sûr, sont vécus par le Christ d'une manière unifiée, alors que Moïse les avait d'une certaine manière été, à cause de son immense faiblesse, été dans l'impossibilité de les tenir par lui-même. Il avait donné, par exemple, son don de parole à Aaron. Après ça, il avait donné à Aaron le sacerdoce lui-même. Et puis, je dirais, il avait conservé en quelque sorte une certaine royauté, hein, puisque c'est lui qui restait le guide finalement jusqu'à sa mort. Mais on voyait que les choses avaient été un petit peu éclatées en lui. Il n'était plus qu'à la fin de sa vie que le roi, le guide qui menait son peuple au désert, mais la prophétie, il l'avait comme subdélégué à Aaron, et le sacerdoce, il l'avait aussi subdélégué à Aaron. Donc il y a eu comme au cours des siècles après, une non-unification des trois charges.
Hein.
Il y avait des prêtres, il y avait des rois, il y avait des prophètes. Jésus a voulu, certainement, dessein d'amour bienveillant, tout récapituler. L'expression est de saint Paul dans l'épître aux Éphésiens. Et cette récapitulation, donc extraordinaire, permet à Jésus d'être le grand roi, le grand prêtre et le grand prophète. Et de nombreuses allusions dans le Nouveau Testament font comprendre que c'est bien ce rôle que Jésus s'attribue lui-même, même s'il le fait avec, comme on le remarque, beaucoup de délicatesse. Il ne veut rien forcer dans le dessein d'amour bienveillant et il ne force pas les gens à croire. Il utilise des expressions figuratives comme le fils de l'homme trouvé en Ézéchiel qui a une figure messianique, mais il n'utilise pas directement ses attributs en disant « je suis roi » ou « je suis le grand prêtre » ou « je suis le grand prophète ». Il ne les utilise pas, mais agit comme quelqu'un qui est roi, prêtre et prophète. C'est ça qui est tout à fait frappant en analysant un à un les différents éléments des synoptiques, et même dans saint Jean, on voit ces attributs que Jésus porte. Donnons un exemple, pour la transfiguration, il est habillé tout en blanc, illuminé de blanc. C'est une robe que ne portaient que les grands prêtres, d'être habillé tout en blanc. C'était une caractéristique du grand prêtre. Seul le grand prêtre apparaît dans l'Ancien Testament, tout revêtu de blanc. Oui.
Alors justement, qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est prêtre? Est-ce qu'il célèbre la messe ou est-ce que il doit sacrifier des animaux? Et s'il est prêtre autrement, qu'est-ce qu'il manifeste? Donc tu viens de parler de l'habit blanc qui manifeste son titre de prêtre. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui montrent qu'il joue ce rôle de prêtre auprès de nous?
Oui, alors très nettement, il est prêtre selon l'ordre de Melchisédek, hein, dira l'Épître aux Hébreux, c'est une citation du psaume. Et le psaume renvoie ce personnage étonnant qui, au moment où Abraham sauve son neveu Lot, qui avait été pris par des rois ennemis, ce roi vient apporter l'offrande du pain et du vin. Donc effectivement, le prêtre est d'abord celui qui offre. Et en offrant le pain et le vin à l'origine de l'histoire de l'humanité, dans le dialogue entre Melchisédek et Abraham, bien Jésus reprend le pain et le vin à la Sainte Cène et montre par là qu'il y a un sacrifice qu'il va exercer par le fait de son sacerdoce qu'il a reçu de son Père. Donc le sacerdoce est très nettement inscrit dans les gestes de Jésus, mais même dans sa façon de parler, il enseigne comme un prêtre, il prétend à une autorité extraordinaire, et d'ailleurs les Sadducéens, qui sont les représentants du temple, viennent lui poser des questions, par quelle autorité fais-tu cela? Ils sont très choqués de la façon dont Jésus se positionne, parce que dans le fond, seul un grand prêtre peut faire quelque chose de ce type-là, comme pardonner les péchés, comme purifier, toute chose que seul l'argumentaire du Lévitique autorise quelqu'un qui a été dûment sélectionné dans la famille Aaronide et dans la succession des Tzedakim. Et tout cela, Jésus se l'attribue comme si de rien n'était, alors qu'il est tribu de Judas, comme on le sait bien par l'Épître aux Hébreux. Il pourrait être aussi quelque peu effectivement de la tribu de Lévi par le fait que Marie a peut-être une double ascendance, hein, tribu sacerdotale et tribu de Lévi et tribu de Judas par Joseph, son époux. Et cela fait que Jésus, cependant, montre qu'il agit comme un prêtre au milieu de son peuple et que rien, dans le fond, ne lui permet d'être considéré comme un simple fidèle, je dirais, de l'Ancien Testament. C'est une grosse erreur de regarder Jésus comme un fidèle de l'Ancien Testament.
Alors, on va, donc c'est ce qui est dit là au numéro 783, et ce qu'on va voir dans la prochaine émission, c'est parce que ici, les prêtres, le numéro 783 dit que le peuple de Dieu participe à sa fonction de prêtre. Donc il va falloir comprendre comment nous, on exerce aussi à sa suite cette fonction de prêtre. Ce qui n'est pas évident, parce que est-ce qu'on peut s'assimiler à cette figure du Christ qui est consubstantielle au Père et au Saint-Esprit pour exercer une mission qui lui ressemblerait?
Alors c'est vrai que toute proportion gardée, à chaque fois, quand on parle de participation, et l'Épître aux Hébreux dit que nous sommes participants du Christ, participant de l'Esprit Saint. Évidemment, la participation ne peut pas être une identification plénière et totale. Nous ne recevons que ce que nous pouvons recevoir, et selon nos capacités que Dieu nous a données, et selon notre réception de ces capacités que Dieu nous a données, et de la grâce qu'il veut nous donner. Et en fonction de cela, oui, nous pouvons exercer un véritable sacerdoce tout à fait, je dirais, correspondant à notre identité de chrétien, hein, qui fait de nous, comme dit saint Pierre au début de son épître, peuple de roi, sacerdoce royal. Hein, nous sommes donc nous-mêmes dans la possibilité d'agir in Christo, d'une manière conforme au Christ. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, par exemple, au chapitre 12 de l'Épître aux Romains, où il y a cet appel à nous donner un élan. Le culte spirituel qui vous est donné, c'est de vous offrir en sacrifice spirituel.
Amen. Merci, frère Edouard.